Il est 19h30 ici à Paris, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et l'on parle beaucoup des Jeux Olympiques qui auront lieu cet été en France, beaucoup moins, une nouvelle fois, des Jeux Paralympiques qui vont suivre l'événement. La billetterie fait grise mine, à peine un tiers des places pour assister aux épreuves ont été vendues. Pourtant, les ambitions des organisateurs sont fortes, les Jeux Paralympiques présentés comme le match retour des JO et une vitrine en termes d'inclusion des personnes handicapées. Notre question ce soir, l'engouement concernant les Paralympiques. Est-il à la hauteur des enjeux? Comment créer l'effervescence à 2 mois et demi maintenant du début des compétitions? Et puis, quelle doit être l'apport sociétal d'un tel événement? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Pour répondre à ces questions, nos trois invités. Ce soir, à mes côtés en studio, Marie-Amélie Le Fur, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne athlète handisport, triple championne paralympique d'athlétisme et vous êtes aujourd'hui présidente du comité paralympique et sportif français. Face à vous, Nicolas Méry, bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller national accessibilité à l'association APF France Handicap. Notre troisième invité est en ligne avec nous, bonsoir, Pauline Desrouledes.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Triple championne de France de tennis, fauteuil, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Je vais commencer avec vous, Marie-Amélie Le Fur. Je voudrais savoir ce que vous inspire, justement, pour le moment, l'engouement autour des Jeux Paralympiques. Donc, un tiers des billets, c'est ce que je disais, vendus seulement. Et je n'ai pas précisé que la majeure partie de ces billets qui avaient été vendus l'ont été à des partenaires, donc pas à des particuliers. Est-ce que vous êtes surprise de cette situation? Est-ce que vous êtes déçue?
Alors, pas forcément surprise, pas forcément déçue. Effectivement, je pense qu'on aurait attendu un petit peu plus tôt. Mais il n'y a pas d'inquiétude à date dans la mesure où, en fait, si on regarde les flux de vente des éditions précédentes des Jeux Paralympiques, on est toujours dans cette dynamique. En fait, l'engouement des Jeux Paralympiques arrive souvent tardivement. Ça a été le cas à Londres, où 40% des billets se sont vendus au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques. Donc là, l'objectif, dans les 80 jours qui nous séparent de l'ouverture des Jeux Paralympiques, eh ben, c'est de capitaliser sur ce côté festif. On a la flamme qui est arrivée début mai dans les territoires et on voit que la ferveur des Jeux, la festivité des Jeux est en train de prendre. Et puis, il faut porter un message fort vers les Français, leur rappeler, leur expliquer ce que sont les Jeux Paralympiques. Les Jeux Paralympiques, c'est avant tout un territoire de performance où ils vont vivre des émotions sportives absolument extraordinaires. Et peu importe qu'ils ne soient pas puristes de la règle, peu importe qu'ils ne soient pas puristes de la classification, ils vont vibrer aux côtés des athlètes du monde entier dans des écrans de performance absolument iconiques. Et c'est le message que collectivement on doit passer d'ici la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques.
Ces Paralympiques sont novateurs par rapport aux éditions précédentes? Parce que, est-ce qu'on peut faire un bref rappel historique de ce que sont les Paralympiques, depuis quand ils existent? Parce que les formules ont pas mal évolué au fil des éditions.
Oui, en fait, les Jeux Paralympiques sont relativement récents, hein, si on regarde par rapport à l'histoire des Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Paralympiques, vraiment dans leur forme, Jeux Paralympiques ont été créés en 1960 sous l'impulsion du docteur Sir Ludwig Goodman, qui avait finalement fait des Jeux post-guerre à Stockmanville en 1948. Donc, on a une histoire qui est récente, qui est naissante, qui a été accélérée par les Jeux de Londres en 2012. Donc, la promesse de cet été, c'est déjà, et je l'ai dit tout à l'heure, des sites de compétition iconiques. Et en ça, le concept des Jeux de Paris 2024 est absolument extraordinaire. Donc, ces sites de compétition que l'on voit aux Invalides, que l'on voit à Versailles, que l'on voit au Champ de Mars, on les retrouvera sur le concept paralympique. Et quelque chose d'absolument fondamental, c'est de se dire que jamais le niveau paralympique n'avait été aussi exceptionnel. Les records du monde tombent à l'appel sur les derniers championnats du monde. Donc, c'est vraiment la promesse d'aller voir des athlètes de haut niveau qui vont changer votre regard sur le sport, qui vont changer votre regard sur le handicap. Donc, c'est aussi un enjeu sociétal, un enjeu éducatif que de vivre les Jeux Paralympiques, parce qu'on peut vraiment évoluer en tant que citoyen si on prend part à cette aventure de vie extraordinaire.
Vous avez cité à deux reprises Londres 2012. Pourquoi? Est-ce que ça a été un tournant dans la reconnaissance des Paralympiques?
Oui, ça a été un tournant. Je pense qu'en fait, les Jeux ont été marqués par la philosophie anglaise, où finalement la situation de handicap, la différence ne pose pas débat. Je pense et Pauline s'en souvient, la campagne de communication sur les Jeux Paralympiques, où c'était c'est merci pour l'échauffement. Voilà. Et finalement, maintenant, les vrais jeux commencent. Ouais. Voilà. Et ça, ça a marqué les esprits. Très en amont, effectivement, les Anglais avaient fait le travail pour démontrer que les Jeux paralympiques étaient des Jeux à part entière, où on retrouverait l'émotion sportive, où on retrouverait la philosophie, la festivité, l'atmosphère des Jeux. Et c'est difficile à décrire par des mots, parce que tant qu'on n'a pas vécu les Jeux, on ne peut pas savoir ce que l'on ressent quand on vient dans une arène sportive. Donc moi, j'en suis convaincue, je les ai vécues 4 fois. C'est ce que le message que vous passeront tous les athlètes paralympiques, tous les spectateurs qui ont vécu les Jeux. Maintenant, pour vraiment en être convaincus, venez du 28 août au 8 septembre dans les stades. Vraiment, parce que cette atmosphère, elle est extraordinaire, parce que les Jeux paralympiques, c'est à la fois grandiose, mais cosy. Voilà, ouais. C'est très accessible. Vous êtes en proximité immédiate des sportifs. Vous les voyez performer, se dépasser, avoir des émotions de joie. Et puis, il y a un derrière argument, c'est que l'équipe de France, elle a besoin de vous. On veut rentrer dans le top 8. On a besoin de gagner 2 fois plus de médailles d'or qu'à Tokyo. Et on sait que l'effet à domicile peut aussi fonctionner si dans les tribunes, on a des drapeaux tricolores et si on a des supporters français qui poussent nos athlètes à aller chercher les plus belles des performances.
Et on compte sur Pauline Desrouledes.
Oui, tout à fait. Sans lui mettre la pression, voilà, bien évidemment.
Triple championne de France de tennis fauteuil qui est en ligne avec nous. Et c'est à vous que je m'adresse à présent, parce que je rebondis sur ce qu'a dit Marie-Amélie Le Fur, qui a déjà cité à plusieurs reprises ce mot sociétal. Est-ce que, en tant que sportif de haut niveau, ça vous gêne qu'on évoque, ou peut-être qu'on mette au même niveau, la mission sociétale, l'enjeu sociétal pour un sportif de haut niveau de participer à ces Jeux paralympiques ?
Non, je pense que c'est très important de le rappeler. Là où je rejoins Marie-Amélie, c'est qu'on a une chance inouïe d'avoir les Jeux à la maison. Je pense qu'il faut vraiment continuer de communiquer. Moi non plus, je ne suis pas du tout inquiète en tant qu'athlète. Partout où je passe, je rappelle aux gens qui me voient comme une sportive de haut niveau avant tout, qui comprennent que je vise les Jeux et ils seront ravis d'être au rendez-vous. Je pense effectivement que voilà, il faut bien communiquer sur le fait qu'il y a les Jeux dans notre pays, mais qu'il y aura effectivement les Jeux paralympiques. Et je constate surtout, moi, à mon niveau, un engouement collectif où finalement, peu importe le sport qu'on fait, si on est en situation de handicap ou pas, on va jouer pour la France. Et ça parle au public français parce qu'il y a l'effet, vous savez, je pense, Coupe du Monde, où on a tous envie de vivre des émotions uniques. Moi, je l'ai vu pas plus tard qu'il y a une semaine à Roland-Garros où on a disputé le tournoi de tennis fauteuil et on bénéficiait du public qui venait voir du tennis avant tout et qui sont venus nous voir jouer et qui se sont pris au jeu, qui nous ont encouragés. Et je pense que voilà, les Français seront au rendez-vous de la fête. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Et c'est pour ça aussi que j'ai participé à cette campagne qui disait « Il ne manque plus que vous ». Parce que oui, nous, on est prêts, on se prépare tous les jours pour être au rendez-vous, pour ramener une médaille. Et cette médaille, finalement, on a envie de la ramener grâce à l'aide du public. Et c'est ça qui fera la différence. Donc voilà, au-delà de ça, c'est passer des messages plus forts, dire que voilà, on est sportif avant tout, on a un handicap, on a une différence, mais cette différence, elle ne nous dispense pas d'exercer notre sport d'une manière différente, certes, avec une adaptation, mais ça reste spectaculaire, ça reste une performance sportive, et c'est bien ça qui fera vibrer les Français, je pense.
Ben, on va l'écouter, cette campagne, puisque vous l'avez citée, effectivement, on voit votre visage, on entend votre voix, Pauline Desrouledes, et celle de 2 autres para-athlètes, cette campagne de communication qui a été lancée fin mai. On écoute et on réagit ensuite.
Nous sommes des athlètes, et nous avons rendez-vous avec l'histoire. Une vie d'ambition, d'effort, d'espoir, de rebond. Nous sommes prêts. Nous sommes des athlètes et nous allons jouer le match retour des Jeux de Paris 2024. Regardez le monde droit dans les yeux et la victoire en face. Nous n'avons pas quelque chose en moins, mais quelque chose en plus. Nous sommes des athlètes et nous voulons faire des Jeux paralympiques un moment de communion avec notre pays. Nous voulons vous faire crier, chanter, pleurer, vous rendre fiers comme jamais. Et pour cela, il ne nous manque rien, sauf vous.
Il ne manque rien, sauf vous, Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français. Moi, j'ai envie de dire, il manque tout, s'il manque le public, pour une compétition de haut niveau. Non, c'est un appel désespéré ?
Non, ce n'est pas un appel désespéré. Je pense que le témoignage qu'on a reçu de Pauline le démontre bien. Voilà, on a besoin de créer encore cette proximité des Français avec les Jeux paralympiques. On l'a rappelé, c'est une histoire qui est naissante. Le fait d'acheter aussi sa billetterie est quelque chose de totalement nouveau. Parce que pendant des années, nous avions organisé des compétitions sur le pays. Mais le fait de devoir acheter son billet pour les parasports, c'est une relation qu'on a créée avec les Français depuis simplement 2 ans. Donc voilà, il faut les acculturer, il faut les embarquer. Et je pense qu'une des transitions qu'on est en train de vivre, et Pauline l'a très bien dit dans son discours, c'est de parler avant tout des athlètes, comme des athlètes de haut niveau. À un moment donné, leur situation de handicap, c'est une particularité, mais on ne peut pas focaliser 100% de la communication sur le handicap. On doit parler de leur parcours de vie, on doit parler de leur entraînement, on doit parler de leur performance avant tout. En tout cas, nous, c'est la sensibilisation et le travail qu'on mène actuellement avec tous nos médias partenaires pour avoir aussi cette transition dans la narration et pour vraiment embarquer les Français derrière cette émotion des Jeux paralympiques qui comporte véritablement un supplément d'âme. Parce que nos sportifs, ils incarnent vraiment pleinement ces valeurs du sport, ces valeurs de résilience qui font sens pour la nation française.
Et vous croyez au fait que les 2,8 millions de billets qui ont été mis en vente seront vendus ?
Oui, parce qu'encore une fois, c'est des flux qu'on connaît, parce que Londres, 40% des billets se sont vendus au moment de la cérémonie d'ouverture. Donc on sait que, et on le voit au travers du parcours de la flamme, dès l'instant que l'esprit jeu vient irriguer les territoires, les Français, ils ont envie de faire partie de la fête. Et il y a quelque chose d'important à rappeler, c'est que peut y avoir un élément qui, en tout cas, qui a été clivant sur les Jeux Olympiques, c'est le prix de la billetterie. Sur les Jeux Paralympiques, c'est pas un débat. La billetterie, elle est vraiment accessible. C'est des billets qui sont accessibles à partir de 15 euros. C'est la moitié des billets qui sont vendus à moins de 25 euros. Vous avez des passes découvertes qui vous permettent sur une journée d'aller découvrir différents sports qui sont vendus à 24 euros. Donc les Jeux paralympiques, on y vient en groupe, on y vient en famille, on y vient entre amis pour vivre un moment extraordinaire. Voilà, donc c'est la vraie billetterie populaire, elle est sur les Jeux paralympiques.
Les sportifs paralympiques sont d'abord, et c'est ce que disait également Pauline Desroulettes, effectivement des sportifs de haut niveau, mais dès lors, Nicolas Méry, conseiller national accessibilité à l'association APF France Handicap, que représente, que signifient les Jeux paralympiques ?
Alors, c'est une APF France Handicap. On souhaite la réussite, évidemment, de jeux qui se veulent véritablement inclusifs. C'est une réelle opportunité en termes de visibilité des personnes. Il faut savoir que selon l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, le taux de prévalence du handicap, c'est entre 10 et 15% de toute population. Donc, ça représente entre 850 millions de personnes et 1 milliard. Donc, c'est assez impressionnant. Et or, quand l'ARCOM a fait une étude sur la visibilité des personnes à la télévision, c'est uniquement 0,6%. Donc on voit bien qu'il y a un défaut de visibilité des personnes. Donc c'est une véritable opportunité, les Jeux paralympiques, pour mettre en avant la citoyenneté des personnes. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que la France a été condamnée par l'ONU. La France a signé la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et selon l'ONU, les personnes handicapées sont perçues en France comme des objets de soins et non comme des sujets de droit. Donc la phrase est impactante, donc les Jeux sont éminemment importants.
Mais dès lors, la France, ça fait plusieurs années qu'elle sait qu'elle va organiser les Jeux paralympiques, pourquoi rien n'a changé ? Et pourquoi les choses changeraient après les Jeux paralympiques ?
Ben, il faudrait que ça crée un véritable électrochoc. Il faut savoir que dans le contexte, on en est à 3 lois en l'espace de 75 ans, depuis 49 ans, pardon, depuis la première loi de 75, en matière d'accessibilité. Et il s'avère, c'est une pure coïncidence, hein, mais il s'avère que les Jeux paralympiques coïncident avec la fin d'une échéance légale en matière d'accessibilité, où normalement les transports publics et les ERP, que sont les établissements recevant du public, auraient dû être accessibles. Or, ça ne va pas être le cas, malheureusement. Donc il faut souhaiter que les Jeux, et il y a une pleine mobilisation de toutes les parties prenantes, grâce à la délégation interministérielle des Jeux olympiques et paralympiques, pour que les Jeux se déroulent bien. Mais il faut espérer que ça crée quand même un électrochoc pour tout le pays, aussi bien en termes de reconnaissance des personnes que concernant également l'accessibilité, parce que là, on touche à la liberté d'aller et venir des personnes. Donc il faut espérer que ça crée une véritable prise de conscience.
Pauline Desroulettes, est-ce que vous acceptez, parce qu'encore une fois, il y a cette mission de sportif de haut niveau qu'évoquait Marie-Amélie Le Fur, que vous avez évoquée aussi, mais est-ce que vous acceptez le fait que vous avez également une mission sociétale, en tout cas une mission qui de valorisation de l'inclusion des personnes en situation de handicap, ou est-ce que vous rejetez cela et en fait, d'une certaine manière, vous en avez marre qu'on vous renvoie à cette position-là, à cette situation-là ?
Ah non, pas du tout. Je suis totalement d'accord pour éduquer modestement les gens. Vous savez, je le vis déjà dans les écoles. Je pense que c'est là où c'est le plus intéressant. C'est auprès des jeunes. Quand on, nous, athlètes, on arrive dans les écoles, c'est dans le regard des enfants. On est considérés comme des athlètes, en fait. Et bien sûr, on pose des questions sur le handicap. Bien sûr, on leur explique avec franchise ce qui nous est arrivé, quelle est notre différence. Mais derrière, c'est plus du tout un sujet, et je pense qu'il faut continuer d'expliquer aux plus petits et aux plus grands ce qu'est le handicap, mais surtout ce qu'est notre sport. Et on se rend compte que c'est finalement ça qui est le plus intéressant. Et on en revient toujours à notre discipline. Moi, j'ai un peu la double casquette puisque j'ai eu un accident au cours de ma vie. Donc, j'ai pensé comme une personne valide pendant des années qui était, je le reconnais aujourd'hui, assez ignorante du handicap, qui associait ça toujours à l'image du fauteuil roulant, par exemple. Et aujourd'hui, je découvre toutes les formes d'handicap. Et c'est vrai qu'il y a un immense travail encore à faire. Je le vois quand je circule dans les aéroports. Il y a une éducation à continuer. Et je pense que c'est un de nos rôles, une mission qu'on a tous athlètes. On doit prendre le temps de l'honorer, cette mission, parce que c'est comme ça que nos sociétés évoluera, et dans le bon sens. Et encore une fois, l'accessibilité ne sera plus un immense sujet dans notre pays, et la culture du handicap sera beaucoup plus relevée, comme c'est le cas dans les autres pays. On a parlé des Jeux de Londres. Les Anglais, ils ont 10 trains d'avance sur nous. Mais voilà, il faut continuer finalement ces missions d'éducation auprès des uns et des autres, pour que des enfants, par exemple, aujourd'hui, ne se posent pas forcément la question de comment pratiquer leur sport quand ils sont en situation de handicap. Ces questions-là, j'espère, dans quelques années, ils ne les poseront plus. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'athlète, partout où je passe, j'essaye de diffuser ces messages positifs et voilà, pour que nos sociétés avancent dans le bon sens, encore une fois.
RFI, le débat du jour.
L'engouement des Jeux paralympiques est-il à la hauteur des enjeux? Les Jeux paralympiques qui auront lieu à partir de la fin du mois d'août, évidemment, qui vont suivre les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour l'instant, l'engouement semble limité si on s'en tient à la billetterie. Et je disais un tiers des billets vendus à l'heure qu'il est. Mes trois invités, Pauline Desroulettes, que l'on entendait, triple championne de France de tennis fauteuil, Marie-Amélie Le Fur, ancienne athlète handisport, triple championne paralympique d'athlétisme, présidente du comité paralympique et sportif français, et Nicolas Méry, conseiller national accessibilité à l'association APF France Handicap. Je reviens vers vous, Marie-Amélie Le Fur, parce que vous avez à plusieurs reprises évoqué les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une locomotive, les Jeux Olympiques, pour les Jeux Paralympiques? Comment situer, où est-ce qu'il ne faut pas comparer? Alors, par exemple, on parle de la billetterie, un tiers des billets vendus pour les Paralympiques, plus de 80% pour la billetterie olympique. Est-ce qu'il ne faut pas comparer?
Non, il y a des champs effectivement sur lesquels on ne compare pas les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Après, l'idée, c'est de se dire que cet été, on va vivre la grande fête des Jeux et que bien évidemment, les Jeux Olympiques sont un locomoteur pour visibiliser les Jeux Paralympiques. Je pense qu'il faut le prendre comme ça parce que dès l'instant que les Jeux Olympiques vont s'ouvrir, les Français vont découvrir la ferveur des Jeux, vont découvrir la festivité des Jeux qui va se dérouler bien évidemment dans les enceintes de compétition, mais aussi dans tous les sites de célébration qui vont se trouver dans tous les territoires de France. Et nous, on compte beaucoup sur cet esprit des Jeux, sur cette volonté des Français, finalement, de continuer à ressentir cette émotion des Jeux une fois que la cérémonie de clôture olympique, elle sera venue. Et donc, derrière, vous avez deux semaines plus tard l'ouverture des Jeux paralympiques. Et c'est la promesse de revivre cet engouement.
Ce le moment, match retour.
Voilà, le match retour qui sera tout aussi festif. On change les protagonistes, on reprend les mêmes enceintes de compétition, on reprend le même esprit, on reprend la même volonté de performance. On a juste un changement de protagoniste.
J'entends votre optimisme, mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça fonctionnera, que la magie prendra justement de ces Jeux paralympiques?
Parce que ce n'est pas le moment de baisser les bras, tout simplement. Enfin, à un moment donné, on est là sur un moment où on sent que la ferveur des Jeux, elle monte. On a vu que la campagne qui a été lancée au moment du J-100 a permis de transformer ce frémissement déjà en acte d'achat de la part des Français. Donc, il faut qu'on continue à accélérer cette visibilisation parce qu'il y a aussi une problématique qui est inhérente au mouvement paralympique, c'est qu'actuellement, quasiment aucun athlète n'est identifié de la part du grand public.
C'est ce que j'allais dire. Qui peut publicité des para-athlètes
très peu de Français.
On va dans la rue et qu'on tend notre micro. Ouais.
Donc c'est aussi l'enjeu de cette campagne. On l'a dit, hein, il y a trois grands visages qui incarnent cette campagne. Pauline qui est avec nous aujourd'hui, Arnaud Assoumani qui est d'ores et déjà qualifié sur le saut en longueur, et on a Gaëlle Rivière aussi en CC Field, qu'on va capitaliser sur cette campagne, sur ces trois athlètes. Dans quelques semaines, nous aurons le nom de nos porte-drapeaux. Voilà, donc ça, c'est aussi des temps forts sur lesquels on va capitaliser et qui permettent aussi de personnifier les Jeux paralympiques au travers de certains athlètes. Et il y a un autre facteur, c'est qu'on est sur des sélections aux Jeux olympiques et paralympiques qui sont tardives. À date, on a seulement 56 finalement athlètes qui sont sélectionnés pour les Jeux paralympiques. Donc l'enjeu, c'est aussi à chaque moment, chaque semaine, quand on va sortir des nouvelles sélections, d'avoir cette diffusion médiatique de la sélection, d'encourager les athlètes aussi à communiquer sur les jours où ils vont concourir. Et tout ça, voilà, c'est des choses qui permettront d'avoir l'acte final d'achat. Mais si on regarde un petit peu en arrière, il y a quand même déjà du chemin qui a été parcouru. Parce qu'il y a quelques années, les gens ne connaissaient pas du tout les Jeux paralympiques. Désormais, les gens sont capables de le citer. Je pense que si vous leur demandez, ils savent que cette année, ça se tient en France, que ce sera fin août. Maintenant, le dernier petit déclic qu'il nous faut, et je pense vraiment qu'on est confiant aussi parce qu'on sait qu'il faut juste le petit dernier déclic, c'est celui vraiment de l'acte d'achat. Et donc, on doit l'encourager par la personnification, par les athlètes, par le fait aussi de bien identifier les sessions où on aura des athlètes français qui seront en compétition. Voilà, donc ça, c'est un travail qui est mené avec l'ensemble des parties prenantes pour cette réussite de l'engouement des stades. Après, la réussite des Jeux, ce n'est pas uniquement le temps des Jeux. Et je pense que ça a été très bien rappelé par Nicolas. C'est aussi de faire en sorte que ces Jeux, ce soit un tremplin pour la place des personnes en situation de handicap. Et quand bien même, il n'y a pas d'imposition envers nos athlètes de porter cette cause sociale et sociétale, il l'incarne de fait. Et nous, on souhaite vraiment capitaliser. On a déjà un héritage matériel, immatériel qui est notable. Il faut l'entretenir dans le temps.
Et alors, comment... parce qu'il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas une explication de texte aussi, entre guillemets, à faire auprès du public? Parce que qui connaît les différences parasport? Il y a des règles qui peuvent être très différentes. Parfois, il y a un assistant, parfois, il n'y en a pas. Est-ce que c'est le public amateur de sport que vous visez, qui peut, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne va pas d'abord regarder les Jeux Olympiques à la télé ou prendre des places? Ou est-ce que, pardon, il y a l'idée peut-être de faire, entre guillemets, une action en faveur de l'inclusion des personnes handicapées, entre guillemets, une bonne action dans la personne qui va prendre une place pour les Jeux Paralympiques?
On va être effectivement sur le public amateur de sport, encore une fois, parce qu'ils retrouveront ce qu'ils aiment dans le sport, dans les Jeux Paralympiques. Mais on est aussi sur un public peut-être moins captif de l'enjeu sportif, peut-être un public plus familial, parce qu'ils vont trouver dans les Jeux Paralympiques, effectivement, une dimension sociale, sociétale, qui les anime, qui peut avoir cet effet déclic. Donc, il faut vraiment qu'on ait ce message envers les deux publics. Et par rapport à ce que vous disiez, bien évidemment, il y a des questionnements autour des règles des Jeux Paralympiques, de certaines disciplines, autour de la classification. Donc là encore, hein, il existe des supports pédagogiques, des vidéos qui vont être repris comme ça par les différents diffuseurs. Nous, on fait aussi du travail auprès des journalistes pour avoir la bonne sémantique, pour aussi être capable de bien expliquer les sports.
Oui, parce que ce sera majoritairement retransmis, il faut rappeler. Oui, il y aura 300 heures de direct par France Télé, c'est trois fois plus qu'à Tokyo.
Tout à fait.
Est-ce que c'est la mission de service public ou est-ce que ce sera pour répondre à une attente?
Non, je pense que c'est pour répondre à une attente. Il y a vraiment une attente grandissante. On a les Jeux à la maison, donc je pense qu'il y avait aussi une volonté du diffuseur avec lequel on travaille depuis maintenant de nombreuses années, vraiment de mettre en valeur et en lumière l'ensemble des sports paralympiques, l'ensemble des disciplines, de développer des supports pour bien appréhender et la règle et la classification. Après, moi, j'aimerais être peut-être un peu piquante envers les auditeurs, mais est-ce que toutes les personnes qui ont acheté des billets pour les Jeux Olympiques connaissent de façon très puriste les règles des sports sur lesquels ils se rendront? Personnellement, je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue. Donc à un moment donné, c'est aussi de se dire que pourquoi on achète? Parce qu'il y a ces sites iconiques, parce qu'il y a cette volonté de faire partie d'un moment de l'histoire de notre pays, parce qu'il y a envie d'être porté par cette ferveur des Jeux. Si vous avez envie de ça, vous le retrouverez sur le temps des Jeux paralympiques.
Nicolas Méry, Marie-Amélie Le Fur a évoqué cette mission, cet enjeu, évidemment, en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap à travers les Jeux paralympiques. Comment peut se traduire le tremplin des Paralympiques?
Comme une formidable opportunité de rendre visible un public par trop méconnu.
Concrètement, est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut donner de ce que vous souhaiteriez, sur quoi débouchent les Paralympiques?
Une véritable prise de conscience qu'il faut absolument concrétiser la citoyenneté des personnes en situation de handicap, parce que la vie quotidienne d'une personne, c'est extrêmement complexe en termes d'accessibilité, c'est-à-dire en termes de liberté d'aller et venir. Je vais vous citer une seule donnée épidémiologique. Les femmes en situation de handicap développent 2 fois plus de cancers du sein que les femmes valides. Pourquoi ? Parce que les centres de dépistage ne sont pas accessibles et parce que les mammographes ne le sont pas non plus. Donc ça touche quand même à la citoyenneté des personnes, à la reconnaissance des personnes. Donc ne pas avoir le choix de son médecin, ne pas avoir le choix de son restaurant japonais, de l'école, de ses enfants. Donc ça impacte, c'est pas du tout la même vie quotidienne que pour les personnes valides. Donc il faut quand même une prise de conscience que véritablement, il faut le sujet de l'accessibilité, et c'est pas le seul, hein, parce qu'il y a celui de la compensation, de la scolarisation, des ressources... Il y en a plein des sujets. Et donc, il faut espérer qu'effectivement, il y ait tout un tas de témoignages qui puissent illustrer la difficulté que d'être une personne en situation de handicap aujourd'hui en France. Et je répète la phrase de l'ONU. Ouais. En France, les personnes handicapées sont perçues comme des objets de soins et non comme des sujets de droit. On en est quand même à 3 lois en l'espace de 49 ans. Donc, à partir de quand, effectivement, il va y avoir... des actes concrets de la part des pouvoirs publics, aussi bien nationaux que locaux. Hein.
Marie-Amélie Le Fur, je vous ai vu lever la main, mais est-ce qu'il y a des installations qui vont être mises en place à l'occasion de Paris 2024 qui vont perdurer ?
Oui, en fait, vous avez demandé qu'est-ce qu'on a de concret à date. Hein, et encore une fois, pour moi, on est au début du processus. Hein, je rejoins Nicolas, ça doit être un début et tout ça, on va devoir le faire continuer. Déjà, c'est 17 quartiers de la ville de Paris, un par arrondissement qui a été mis en accessibilité augmentée. Donc, il y a eu tout un travail pour la vie quotidienne des personnes en situation de handicap dans ces quartiers. Il y a eu aussi énormément d'incubations de start-up, de solutions innovantes autour de la façon dont les personnes en situation de handicap peuvent, dans un stade, vivre le spectacle sportif. Donc, on a vu des systèmes d'audio-description pour les personnes aveugles qui ont été développés. C'est aussi des systèmes de mobilité nouveaux qui ont été pensés et qui ont été accélérés grâce au jeu. C'est des millions d'euros qui ont été investis par l'État pour la mise en accessibilité des commerces et des transports. Alors certes, on n'a pas la mise en accessibilité du métro historique. Je pense que ça, c'est le point sur lequel on cristallise tous et qui est un point, à mon sens, de déception du projet final qu'on est en train de vivre. Mais regardons le transport de surface, l'accélération que ça a permis sur les lignes de bus, sur la mise en accessibilité de certaines gares SNCF. Voilà, tout ça, c'est une évolution structurelle qui est déjà notée et qui, pour moi, a fait aussi évoluer les modalités de pensée. Et permettez-moi peut-être de terminer sur 2 derniers exemples. Le Prisme, c'est un bâtiment innovant à dédié à la pratique sportive qui a été pensé en accessibilité universelle et qui démontre qu'on peut vraiment faire un équipement sportif pleinement adapté aux personnes en situation de handicap et qui va être inauguré prochainement en Seine-Saint-Denis. Et également un second projet, l'Institut Parasport Connecté, qui permettra aussi d'avoir des consultations pluridisciplinaires pour favoriser l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Dernier chiffre, à date, 1 500 nouveaux clubs ont été formés, sensibilisés pour accueillir des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment des évolutions à Paris, mais aussi sur l'ensemble du territoire.
Et moi, je termine avec une dernière question sportive, puisque vous avez dit d'abord l'enjeu des sportifs. Est-ce qu'on peut imaginer les JO et les Paralympiques puissent bénéficier un jour de la même attractivité ?
Pour moi, c'est de se dire que il faut faire de ce qu'on va vivre de ces 2 quinzaines une grande fête autour du sport. Après, il faut respecter que les Jeux Olympiques ne sont pas les Jeux Paralympiques et inversement. Donc, c'est d'avoir la même ambition, c'est d'avoir la même vision, mais en respectant la singularité de chaque jeu, parce que il y a aussi des points forts dans les Jeux Paralympiques. Moi, ce que j'aime dans les Jeux Paralympiques, c'est que toutes les personnes en situation de handicap peuvent y trouver leur place. Et ça, c'est aussi important de défendre ce modèle-là, parce que derrière cette incarnation du modèle des Jeux Paralympiques, c'est de représenter 15% de la population mondiale et de démontrer pour une fois dans leur vie leur niveau de compétence et leur niveau de capacité. Et ça concourt aussi au changement de regard.
Eh bien, le message est lancé et preuve de l'ouverture. Je cite l'exposition « Histoire paralympique » qui s'ouvre aujourd'hui au Panthéon à Paris. Merci beaucoup Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité Paralympique et Sportif Français. Merci Nicolas Mérille, conseiller national accessibilité à l'association APF France Handicap. Et merci à Pauline Desrouledes, triple championne de France de tennis fauteuil. Allez, dans une minute, le journal de 20h, puis Mardi Politique. Et à 20h30, ce sera Afrique Soir, la première édition. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Allez, au programme ce soir.
Alors nous parlerons de la République démocratique du Congo et de l'investiture du nouveau gouvernement de Judith Suminwa. C'est au Palais du Peuple de Kinshasa, qui est le siège du Parlement congolais. Alors plusieurs priorités ont été annoncées, notamment le pouvoir d'achat et la sécurité des populations dans l'est du Congo. Plus d'un an de guerre au Soudan, un conflit meurtrier qui s'enlise. Le procureur de la CPI se dit préoccupé. Il demande à tous les partenaires de la Cour pénale internationale d'envoyer des informations et des preuves pour étayer les enquêtes de la Cour. Ce sera d'ailleurs le dossier d'Afrique Soir. Et puis nous parlerons de football, bien sûr, avec la suite et la fin de la 4e journée des éliminatoires en vue de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique. 13 matchs au programme. Voilà, vous savez tout, Romain.
On sait tout, presque. En tout cas, à 20h30, on saura tout. Merci beaucoup, Sylvie Berruet. À tout à l'heure sur RFI.